Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Le savoir-faire, microtechnique au service de l'horlogerie de luxe. Un slogan qu'on peut lire dans l'entreprise Atokalpa, située à Halle, dans le canton du Jura. Après quelques minutes dans le hall, on m'amène dans une salle multimédia. Machine à café, machine à thé, de l'art abstrait au mur et des représentations de montres également. Pas n'importe lesquelles, celles du groupe auquel appartient Atokalpa. Mais l'entreprise reste indépendante. Mon invité l'a rapidement dit, on sent que c'est important pour lui, on en parlera. Il m'a présenté l'entreprise via une présentation sur un beamer. Je pose de nombreuses questions, je fais dévier la structure du PowerPoint, on digresse, mais à aucun moment cela perturbe notre invité, toujours très franc, très transparent. Il est avec nous jusqu'à 19h pour nous parler de son entreprise sans PowerPoint. Bonsoir Sébastien Jeanneret.
Bonsoir, je profite déjà d'avance de vous remercier pour l'invitation et pour présenter notre société Atokalpa.
Merci à vous d'être là. Vous dirigez donc Atokalpa depuis 2 ans, vous êtes dans la maison depuis plus de 10 ans par contre. Vous vous considérez davantage comme un gestionnaire ou comme un technicien ?
Alors à la base, plus comme un technicien, étant donné que je suis issu de la voie technique de la société. J'ai effectivement fait les 8 premières années chez Atokalpa comme directeur technique. Et puis on a dans la continuité, le conseil d'administration m'a proposé de reprendre la direction il y a 2 ans, la succession de Jean-Michel Peloux, notre ancien directeur. Et puis clairement, c'était une continuité avec une volonté de poursuivre sur la même ligne, sans perturbation par changement de dirigeant. Et puis effectivement, c'est une situation où aujourd'hui, j'ai repris la direction avec les activités de direction et le même groupe qui était en place à l'époque.
Il y a des choses qui vous ont surpris quand on passe de la technique à une direction plus générale, des choses auxquelles vous vous attendiez pas ?
Alors non, j'étais déjà en collaboration étroite avec notre ancien directeur, M. Peloux, mais effectivement, c'est un changement de casquette dans la même société, pas toujours évident à gérer, dans le sens qu'on a la technique pendant des années, et puis on doit tout d'un coup passer à du management 100%, où là, clairement, c'était un petit peu difficile des fois d'enlever la casquette pour la laisser à mon successeur, mais c'est aujourd'hui chose faite.
Et devoir faire parfois des arbitrages entre secteurs aussi ?
Alors, effectivement, il faut être neutre et pouvoir être sans jugement, sans préjugé.
Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre cette direction il y a 2 ans ?
Alors, c'était à la base, je suis arrivé chez Atokalpa pour reprendre un projet il y a 10 ans. Durant 8 ans, suivi la direction technique. Et puis effectivement, il y a eu des constructions, une grosse évolution avec de gros projets qui ont été amenés, qui ont été développés. Et puis le départ en retraite de mon prédécesseur, M. Peloux, a permis à ce que je puisse reprendre une direction avec une évolution et une continuité dans ce que j'ai amené juste durant les 8 premières années.
Ces 2 années où vous êtes à la tête de l'entreprise, 2015-2016, on ne peut pas dire que vous avez mangé votre pain blanc, ces 2 années compliquées, 2 années de crise horlogère. Comment vous avez vécu ce baptême du feu ?
Alors effectivement, c'était difficile, je dirais, par rapport à des années plutôt euphoriques durant les années 2012 à 2014, où on a aussi eu des difficultés, mais qui étaient plutôt d'assumer les volumes passés par nos clients, qu'effectivement dans les années 2015-2016, où on s'est retrouvé dans des situations plutôt de vaches maigres, où on a dû clairement, mettre en place de la RHT. Alors c'était une bonne école, mais effectivement difficile à gérer.
Atokalpa avait 25 employés en 2000, on remonte encore plus le temps là, oui. 140 en 2014, il s'est passé quoi entre-temps ?
Alors en 2000, effectivement, il y a une situation où Atokalpa était indépendant, c'était une société familiale, et puis Atokalpa a intégré le pôle horloger de la Fondation de famille Sando, où effectivement, à la base, en 1996, la marque Parmigiani a été créé à Fleurier par le soutien de la Fondation de famille Sando. Et puis, effectivement, la volonté était d'avoir une maîtrise à 100% des différents éléments horlogers, au contraire de certaines marques qui achètent des mouvements, qui achètent énormément de composants. C'était de tout maîtriser au sein d'un pôle horloger.
Tout avoir dans le groupe, toutes les compétences.
Exactement, d'avoir toutes les compétences. Et puis, il y a eu des rachats de sociétés familiales, comme la société Atokalpa, une société à Moutier, Belle-Praon, donc qui fait du décolletage, la société Elvin, une société à Chaux-de-Fonds qui s'appelle Les Artisans Boîtiers, Cadran Serbillage également à Chaux-de-Fonds.
Mais vous restez indépendant ?
Alors effectivement, c'est des sociétés qui sont toutes indépendantes, DSA, on a effectivement chez Atokalpa d'autres actionnaires également que la Fondation. la fondation est clairement majoritaire et je dirais nous soutient dans toutes les activités.
Mais vous pouvez avoir n'importe quelle marque de montre parmi vos clients, pas seulement celle du groupe.
Alors effectivement, on a toute la place horlogère, les clients de la place horlogère. On travaille pour les grands groupes, le groupe LVMH, le groupe Richemont et des marques indépendantes où on n'a pas, je dirais, les volumes à Tocalpa aujourd'hui permettent de satisfaire bien plus que la consommation du groupe.
Faire partie d'un groupe, à vous entendre, c'est des avantages en période de crise notamment ?
Alors non, effectivement, je pense que c'est clairement un avantage. Disons, l'avantage aussi, c'est qu'on a une solidarité, c'est qu'effectivement, on peut, durant ces périodes difficiles, ramener des choses en interne qu'on avait tendance à sous-traiter dans les périodes un peu plus euphoriques. Et surtout, je dirais, chez Tocalpa, on a deux autres actionnaires également qui sont des clients également. Donc là, clairement, ça facilite aussi les choses durant ces périodes difficiles où les actionnaires jouent le jeu en tant que clients de passer les commandes qui nous permettent de limiter la casse.
Vu que les clients participent à l'entreprise, ils ont intérêt que l'entreprise se porte bien. Donc en fait, finalement, il y a du soutien et de la solidarité, c'est ça?
Exactement.
Dans le groupe, vous avez également Vaucher Manufacture. La coordination entre La Joie et le Val de Travers, ça va?
Alors très bien, on est dans des activités différentes. Donc Vaucher se développe, industrialise et produit des mouvements mécaniques haut de gamme. Nous, on est plutôt sur la partie composants. Il est clair que les synergies doivent être importantes, le savoir-faire est complémentaire, et puis effectivement, c'est une collaboration qui a dû être construite, mais qui fonctionne très bien aujourd'hui.
Il n'y a pas de bataille entre l'absinthe et la damascine?
Pas du tout, non.
Alors ça va. On va parler de votre produit, véritablement le produit phare, ce sont les rouages et les oscillateurs. Très concrètement, qu'est-ce que c'est ?
Alors l'oscillateur, on peut comparer ça au quartz de la montre électronique, donc c'est la base de temps, le cœur de la montre mécanique. C'est trois éléments principaux, ce qu'on appelle la roue d'échappement, l'ancre et le balancier spiral, un organe régulateur qui bat une fréquence de 3 ou 4 Hz, c'est-à-dire 20 000 ou 10 000 fois en dessous de la montre électronique, et qui doit donc nécessite des précisions extrêmes par rapport à la fréquence qui est très basse, où les perturbations peuvent être importantes, d'où la précision de la montre mécanique, quand même souvent en dessous de la montre électronique.
Encore une définition pour bien comprendre le reportage qui va suivre. Ce qui demande beaucoup d'investissement chez vous, ce sont les spirales. De quoi s'agit-il ?
Alors le ressort spiral, c'est l'élément, je dirais, oscillatoire de la montre, le résonateur, donc qui est associé au balancier, qui nous donne la fréquence. C'est un petit ressort qui est grosso modo la taille d'un cheveu, qui est obtenu par des procédés de tréfilage, de laminage, de mise en forme, une quinzaine d'opérations pour l'associer au balancier.
Il faut être très précis, on va l'entendre maintenant puisqu'on va se rendre là où on réalise le montage de ce fameux ressort spiral. Un travail minutieux qui se mesure en microns. Jean-Michel Probst s'y est rendu avec pour guide Fausto Berizzi, le chef de production.
Sortie de boîte.
On fabrique carrément les cerfs de balancier de façon automatique. Donc, faut simplement dire aussi une chose, c'est qu'on arrive ici à usiner à l'ordre de 2 microns au niveau des épaisseurs pour garantir une inertie, je dirais, acceptable quand on va les affaire avec les spiraux derrière. Là, on est déjà sur le spiral, c'est l'autre partie de l'oscillateur. Ici, on vient faire, on fait la coupe extérieure. Hein? Voilà. C'est-à-dire que le spiral est déjà soudé sur une virole et on fait une coupe extérieure pour avoir les performances voulues, la dimension voulue du spiral.
Le diamètre du spiral.
De 6 mm, hein, allez, grosso modo, peut-être 10 mm. Mais j'attends le fil, il faut juste savoir qu'on part, enfin, on ira peut-être voir après, mais on part sur du fil, avant de laminer, il fait 6 dixièmes, et on arrive à le tréfiler en rond jusqu'à 5 centièmes. Donc c'est vraiment plus petit qu'un cheveu. Un cheveu, ça fait 6 centièmes.
On se rend compte qu'il y a ici de la haute technologie, hein, pour créer ces mouvements. Mais que la main, que l'humain est très important dans ce travail.
C'est indispensable. C'est vraiment la formation. C'est, je dirais, le personnel qui manipule ça. C'est la dextérité à l'état pur. Quoi. Je dirais, je pose la question. Moi, j'ai un petit peu l'habitude, mais je prends un spiral comme ça. Je l'esquinte. Donc c'est vrai que c'est important. De la manipulation est très très importante et la formation est très très importante. Voilà.
L'assemblage des spirales et des balanciers.
Exactement.
Et là, on est au cœur de la montre.
Voilà. Il y a quelqu'un d'homme ? Donc là, voilà. Donc c'est le cas, monsieur.
Bonjour. Bonjour.
Donc Dominique, c'est le chef d'atelier. Hein, voilà. Ça fait un moment qu'il est chez nous aussi, lui.
Ouais, ça fait une dizaine d'années presque.
D'accord.
Ouais.
Donc tu peux juste nous.
Je suis monté, je vais juste chercher les bricelles qu'il faut. Voilà, donc ici on assemble les spiraux sur le balancier. Donc on a bien les. On a classé auparavant les balanciers et les spiraux. Donc la première étape, c'est de placer notre spirale sur notre posage ici. On a une petite aspiration. Et là, on vient détecter le bout de notre spirale, la petite flèche bleue qui nous l'indique. Ensuite, on met notre balancier sur le posage prévu pour les balanciers qui se trouve ici. Et la machine vient capter le bout du spirale. Donc après, on a une table rotative ici qui va venir tourner par rapport à l'orientation du spirale sur le posage. Donc quand je vais presser, ça va aller assez vite. Elle va tourner et après, notre posage ici va venir dessous. Cette potence ici va descendre, venir prendre le spirale et ensuite remonter pour que celle-ci reparte en arrière. Et après, elle va descendre pour venir chasser sur le balancier. Donc ça va aller assez vite, mais... Donc là, voilà, on a un mobile fini. Il manque plus que la courbe et puis la mettre dans la montre. Et puis... C'est les dernières étapes, voilà.
Là, on a monté le cœur de la montre.
Voilà, c'est à peu près ça, ouais.
Exactement.
Si on a bien fait notre travail, la montre va bien aller...
Sortie de boîte.
Et nous sommes de retour dans votre studio de Léman avec Sébastien Jeanneret, le directeur d'Atocalpas. Ça va, les bruits vous sont familiers, vous étiez à Halle dans l'entreprise.
C'était effectivement bien les personnes qui œuvrent tous les jours à l'activité du balancier spiral. Ouais.
On a entendu la précision, le savoir-faire, mais aussi le rôle du fait main. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement de technique chez vous, mais d'esthétique. Il y a un département que pour ça. Quelles sont les demandes concrètement ?
Alors aujourd'hui, ben, comme vous l'avez souligné, on parle d'un savoir-faire au service de l'horlogerie de luxe. Effectivement, on a différents clients aujourd'hui chez Atocalpas qui nous commandent des produits dans deux catégories, l'oscillateur, comme on parlait, et le rouage, qui équipe également toutes les montres mécaniques.
Plus l'oscillateur ou le rouage, d'ailleurs ?
Alors, je dirais historiquement, Atocalpas, c'était une société qui faisait que du rouage, et puis elle a été acquise par la Fondation pour faire effectivement de l'oscillateur, étant donné que le savoir-faire nous faisait bénéficier de compétences comme le décolletage, le roulage, pour les démarches oscillateurs à venir.
Donc aujourd'hui, c'est plutôt des oscillateurs.
Alors aujourd'hui, c'est plutôt des oscillateurs. On produit toujours la même quantité de rouage, mais effectivement, aujourd'hui, ça n'a pas bougé. C'est toujours le même volume. Ça représentait 100% avant, puis aujourd'hui, c'est 25%. Et donc, on produit 75% de produits oscillateurs aujourd'hui, donc les trois quarts de notre production.
Et où est l'esthétique, alors ?
Alors, l'esthétique, c'est par rapport à nos différents clients, effectivement, de différents niveaux de finition, du très haut de gamme, du luxe et du moyen de gamme, où effectivement, on peut avoir des éléments, que ce soit des oscillateurs ou des rouages qui sont bien sûr dépendants le prix est dépendant du volume, mais où clairement on peut avoir des finitions esthétiques très élaborées qui n'amènent pas forcément, enfin pas du tout d'aspect technique, mais qui amènent une plus-value esthétique au niveau du produit et qui peut doubler voire tripler le prix du produit pour des clients qui sont typiquement dans des labels de qualité très élevés, qualité Genève, qualité Fleurier par exemple aussi, avec les Vaucher qui se situent dans du haut de gamme, qui fait aussi sur plusieurs activités du moyen, du haut de gamme, du très haut de gamme pour la société Parmigiani, mais également pour d'autres clients.
Le prix le scie entre combien et combien ?
Alors si on parle pour un rouage, je dirais ça peut être entre 3-4 francs pour une pièce en finition basique et une quinzaine de francs pour une pièce en finition très élaborée. Bien sûr que ça dépend aussi des quantités qui sont commandées.
Vous avez un exemple de quelque chose particulièrement luxueux ou quelque chose qu'on vous demande pour un oscillateur ?
Alors effectivement, il y a encore, on voit aussi des opérations, plus qu'un produit en particulier, mais qui sont, on appelle ça le polissage à la meule de bois, une opération qu'on refait dans des ateliers de décoration, où on vient avec une meule en bois, c'est une opération historique, je dirais, qui artisanale, avec laquelle on vient polir les flancs des dentures, avec une pâte diamantée sur une meule en buis, et puis c'est une opération qui est toujours aujourd'hui exigée, justement, dans des labels, comme par exemple la qualité Genève.
Mais ça ne se voit pas, au final ?
Alors non, c'est effectivement là, il y a un peu de technique parce qu'effectivement, on amène une qualité de surface sur les dentures, mais on peut toujours. Ouais, c'est plus esthétique, disons, que plus en technique. Technique.
Et donc vous avez quelqu'un dans l'entreprise qui maîtrise complètement cet outil historique.
Alors voilà, donc c'est toujours effectivement des personnes. On a dû reformer, tout comme pour les opérations au niveau du spiral, les personnes où le savoir-faire avait disparu dans certains cas.
Concrètement, ce qui est rentable pour vous, c'est véritablement cet aspect esthétique. C'est pas en fait la quantité, c'est la qualité.
Alors effectivement, aujourd'hui dans notre production, on a plutôt des on pourrait dire petit volume, on travaille pour du, comme je disais, du moyen haut de gamme. On n'est pas dans des créneaux bas de gamme à des centaines de milliers de pièces. On produit, si au total on prend l'ensemble de nos références dans tous les volumes, plusieurs millions de pièces par année. Mais effectivement, nos tailles de lot se situent de l'ordre de 2-3 000 pièces au niveau des ordres de fabrication. On livre des séries de 10 pièces pour des prototypes ou de 50 000 sur une même référence. Mais effectivement, c'est plutôt des petits lots, disons.
Vous visez la valeur ajoutée. C'est une niche ou vous avez des concurrents ?
Alors clairement, il y a des concurrences et effectivement des... Alors je dirais sur l'oscillateur, peu, parce qu'effectivement, c'était, comme je disais, une des volontés de la Fondation de remettre en place l'oscillateur au sein du pôle. On est aujourd'hui, parmi les indépendants, je dirais, des seuls producteurs d'oscillateurs aujourd'hui, où techniquement on a la maîtrise complète du produit, où justement on fournit l'ensemble de l'horlogerie. Mais sur le rouage, il y a effectivement là des concurrents qui produisent ce genre de composants du même ordre de qualité que ce qu'on fait nous, dans le canton de Neuchâtel ou dans le Jura.
Et comment vous vous distinguez, comment vous vous différenciez face à ces concurrents ?
Alors bah, c'est effectivement au niveau des compétences, bah, je dirais, techniques aussi. Donc bah, bien sûr que le prix est toujours un élément clé, mais l'aspect qualité également. On a des démarches qualité en interne qui sont importantes. On doit aujourd'hui satisfaire nos clients qui sont de plus en plus exigeants au niveau de la qualité, qu'elle soit technique ou esthétique, avec des démarches où on doit clairement mettre en place... Des organisations qui permettent d'assurer aux clients la bonne qualité, des procédés qualité fournisseurs que nos clients exigent, où ben c'est vraiment la satisfaction client qui permet d'assurer la bonne relation.
Et pour assurer cette qualité, ben il faut la main-d'œuvre. On a parlé avant tout à l'heure de formation. Vous avez évoqué dans le reportage, on a aussi entendu que la formation était très importante. Vous avez un programme de gestion des talents, ça consiste en quoi ?
Alors effectivement, aujourd'hui, ben, au niveau RH, on met une attention particulière au processus de gestion, depuis l'engagement, la définition du profil de compétences dont on recherche, jusqu'à, passant par le temps d'essai, la phase où la personne est employée jusqu'au moment où elle sort de l'entreprise. Et c'est important qu'on fidélise un maximum nos collaborateurs, que nos collaborateurs se sentent, bien à l'aise au travail et pour une longue durée.
Et il y a également des frontaliers dans l'entreprise qui se situent à Hal.
Oui, alors on est effectivement, on pourrait dire, à cheval sur la frontière. On est en Ajoie, donc à quelques kilomètres. Et puis je dirais que géographiquement, ben, si on tire un cercle sur le sens, l'entreprise étant au centre, on voit que la France est très proche et que ben, finalement, lorsqu'on engage des personnes, ben le potentiel de candidature est autant grand en France qu'en Suisse.
C'est une question sensible, souvent aussi récupérée politiquement, la question des frontaliers. Comment vous la gérez à l'interne ?
Alors je dirais, on ne fait pas aujourd'hui de différenciation entre les Suisses, les frontaliers. L'entreprise est géographiquement sur la frontière, on peut dire comme ça. Effectivement, c'est historique. La Fondation donc, a racheté cette société qui se trouve à Hal. Et donc finalement, je pense qu'on s'est complémentaires. On entend souvent de la sous-enchère salariale, c'est clairement pas le cas chez nous, donc on cherche la compétence. Bon, je pense qu'il y a de la complémentarité aussi avec peut-être des métiers au niveau notamment logistique ou certaines fonctions qu'on trouvera peut-être moins en France et moins en Suisse ou plus en France et l'inverse.
Il y a des postes parfois qui n'ont pas de candidature suisse, ça peut arriver ?
Alors effectivement, on voit que ben, dans certains postes, c'est soit pour des questions de géographique où les personnes sont des fois pas ouvertes à se déplacer, de zones un peu plus éloignées de la Suisse, où clairement on trouve peut-être des fois des profils plus facilement en France qu'en Suisse.
À la fin de l'année passée, il y a eu des RHT dans l'entreprise, des mesures de chômage partiel. Comment ça s'est organisé chez vous ?
Alors chez nous, on a décidé d'organiser ça de manière, collégiale et en fait par solidarité, où effectivement... on aurait pu aussi faire travailler les départements de soutien, comme les méthodes, comme l'industrialisation, mais effectivement, on a fait ça en bloc, et finalement, on a pu gérer ça de manière uniforme dans toute l'entreprise.
Ça veut dire que tout le monde était complètement traité à égalité.
Voilà, donc tout le monde était sur le même pied d'égalité au niveau du chômage technique.
Aujourd'hui, il y en a encore ?
Non, alors on a terminé depuis la fin de l'année passée, où là on est plutôt dans une phase, on va pas parler de reprise et plutôt rester prudent, mais effectivement où le premier semestre 2017 est très bien chargé en fait aujourd'hui, donc c'est plutôt positif.
On va rester dans l'horlogerie, mais on va changer de canton. On va retrouver Marie-Lise Saillard qui nous parle cette semaine d'une célèbre marque et d'un sacré projet immobilier.
Pile à l'heure.
Aujourd'hui, nous mettons le cap sur le canton de Vaud, sur la région horlogère du canton de Vaud, la Vallée de Joux. Vous savez, c'est là qu'on a récemment vu un lynx traverser la route nonchalamment.
Tu es gros, ouais. Eh, hey, mais c'est bon ça. Tu es ce panthère. C'est ce panthère que c'est, ce machin.
Elles sont peu nombreuses, les manufactures suisses de haute horlogerie, à être encore aux mains des familles qui les ont fondées. Peut-être même qu'Audemars Piguet, c'est un peu le dernier des Mohicans. L'histoire a commencé il y a maintenant 142 ans. À l'origine, Jules-Louis Audemars et son ami Édouard-Auguste Piguet. Depuis le tout début, la manufacture Audemars Piguet est installée au Brassu.
Plein de stars sont venus acheter leur montre ici. Je gère le cool Breguet. Audemars Piguet, viens toi aussi mettre du luxe au poignet.
Quand on dit Audemars Piguet, on pense obligatoirement à un modèle emblématique, la Royal Oak. Première montre de sport en acier, elle a été créée en 1972 avec sa lunette octogonale maintenue par 8 vis exactes. Hexagonale apparente, c'est devenu une véritable icône.
Et le chêne, droit debout, semblait trop au-dessus de tout.
Audemars Piguet s'investit dans le sport, dans l'art et depuis 1992 dans la protection de l'environnement, en particulier la conservation des forêts dans le monde. Au Brassu, Audemars Piguet a choisi de démolir son hôtel des horlogers. Un nouvel établissement plus luxueux sera construit à la place. Et Audemars Piguet lance en parallèle un autre chantier pour son nouveau musée. La première pierre de la future maison des fondateurs vient d'être posée. La marque parle d'une complexité architecturale comparable aux complications horlogères. Et pour la symbolique, les composants nécessaires à la construction d'une montre Royal Oak ont été enfermés dans une boîte étanche qui a été scellée avant d'être ensevelie sous les fondations du futur bâtiment.
Pile à l'heure.
Et cette future maison des fondateurs, on vous l'a mise en photo sur notre site internet. Vous allez sous émission, sortie de boîte, vous verrez. C'est un sacré projet. Mais ce soir, c'est dans le Jura que nous étions, puisque nous recevons le directeur de Tocalpa à Hal, Sébastien Jeanneret, encore avec nous pour quelques minutes. On va évoquer les défis qui vous attendent. Dans la micro-précision, c'est quoi votre challenge pour les années à venir? Encore plus petit, d'autres matériaux?
Alors bon, je dirais que voilà, on parlait de continuité. Effectivement, aujourd'hui, au niveau de nos produits, on doit clairement assurer, ben, comme je disais, la satisfaction client par des produits de qualité et mettre en place tout ce qui va pour assurer une qualité plus pointue dans le but d'assurer la satisfaction client. Mais effectivement, je dirais que dans les nouveaux produits aujourd'hui, on voit que l'oscillateur bouge. Je dirais qu'on a des nouvelles technologies qui émergent. Le spiral, comme on a parlé, qui se faisait par le passé, dont on produit encore des éléments, nous, en matériaux, je dirais, traditionnels, un ferro-nickel. Aujourd'hui, se fait également en silicium, donc avec des technologies de gravure profonde, de l'électronique. Et concrètement, aujourd'hui, beaucoup de brevets sont posés pour protéger ces développements. On est effectivement aujourd'hui vigilant et on continue de rechercher sur ces produits, de suivre pour ne pas effectivement rater le train le jour où ce sera d'actualité.
Vous avez posé les brevets donc?
Alors pas nous chez Atokalpa, mais effectivement beaucoup d'entreprises en pause. On surveille exactement.
Et beaucoup d'entreprises parlent de diversification pour ne pas uniquement dépendre de l'horlogerie. C'est à l'ordre du jour chez vous?
Alors c'est pas à l'ordre du jour, on en parle, mais disons c'est pas à ce stade de l'ordre du jour.
C'est pas encore à ce stade aujourd'hui un projet que vous avez. En tout cas, on vous remercie Sébastien Jeanneret d'avoir été notre invité. On vous souhaite une très bonne soirée.
Merci bien, merci pour l'invitation encore.
Et la semaine prochaine, on va passer à table, et pas n'importe quelle table, s'il vous plaît, une des plus prestigieuses du monde. C'est à l'hôtel de ville de Crissier qu'on fera notre sortie de boîte avec Franck Giovannini. Le successeur de Benoît Violier est un enfant de la région, de Tramelan pour être précis. On va parler avec lui des souvenirs de la région, de la pression d'être à la tête d'une telle institution. Et probablement de quelques gourmandises. Bon appétit, à la semaine prochaine.
Sortie de boîte.